Travailleuses, travailleurs, chers amis, chers camarades, au nom de tous ceux qui ont préparé et font vivre cette fête, je vous souhaite la bienvenue. J'espère que vous y passez de bons moments, un peu à l'écart de la brutalité de cette société capitaliste. Je veux commencer par saluer tout particulièrement ceux qui ont participé à notre campagne pour les élections européennes. Avec Jean-Pierre, nous avons eu l'occasion, pendant ces 5 derniers mois, de rencontrer beaucoup d'entre vous dans diverses réunions, des petites et des plus grandes. Nous avons eu le temps d'échanger et de réfléchir ensemble à la situation. Toutes ces discussions, les interrogations des uns, les cris de révolte des autres ont nourri cette campagne. Les idées et les arguments que vous y avez apportés ont servi dans les interventions publiques que nous avons pu faire, Jean-Pierre et moi, et vous les avez peut-être reconnus. Nous avons fait le score que vous connaissez, mais la voix que nous avons portée, personne d'autre ne l'a portée. C'est la voix des travailleurs conscients de leurs intérêts d'exploiter et conscients d'avoir à renverser le capitalisme. C'est la voix de ceux qui ont un idéal, construire une société collective, sans exploitation de l'homme par l'homme sur toute la surface de la Terre. Et j'espère que, comme moi, vous êtes fiers de porter cette voix. Je l'ai dit dans cette campagne, les élections ne peuvent pas être un but en soi pour les travailleurs. Dans une société basée sur l'exploitation, où le pouvoir réel appartient au grand capital, les élections ne changeront jamais le sort des exploités. Mais nous nous présentons à tous les scrutins pour que les travailleurs puissent exprimer leurs intérêts de classe, pour qu'ils puissent se rassembler derrière un programme ouvrier et s'identifier à un parti opposé à l'ordre bourgeois. Nous avons été près de 180 000 à le faire dans ces élections européennes. C'est très peu et c'est le signe de la période. Une période de crise du capitalisme et de recul du mouvement ouvrier. Les européennes ont confirmé la désorientation politique des travailleurs et particulièrement du monde ouvrier, qui s'est pour l'essentiel partagé entre l'abstention et le vote Le Pen. Beaucoup d'ouvriers ont pris au mot tous ceux, c'était le cas de Le Pen et de Mélenchon, qui proposaient de faire de cette élection un référendum anti-Macron. Pour voter contre Macron, contre son arrogance, contre sa politique anti-ouvrière, beaucoup ont voté pour Le Pen, la liste qui était la mieux placée pour lui infliger un échec. Même si tous les électeurs ouvriers qui votent Le Pen n'adhèrent pas à toute sa politique, ils ne voient pas le poison que son nationalisme et sa xénophobie représentent pour leur classe. Et comment le pourrait-il quand depuis bien longtemps, les campagnes des partis dits de gauche, que ce soit la France insoumise de Mélenchon ou le PCF, sont elles aussi empreintes de nationalisme et de patriotisme. Dans le monde ouvrier, le mot d'ordre du PCF « il faut produire français » a ouvert la voie à la préférence nationale de Le Pen. Et de fait, élection après élection, beaucoup de travailleurs aident à se renforcer un mouvement profondément anti-ouvrier qui alimente la division des classes populaires en fonction de leur origine ou de leur religion. C'est dans cette situation, et confrontés à leurs résultats désastreux, que les leaders de la gauche ont de nouveau entonné le grand air de l'unité. Et poussés par la nécessité de sauver les meubles aux municipales, ils finiront peut-être par retrouver le chemin d'une union de la gauche. Mais ce sera sans nous. Parce que s'opposer à l'extrême droite, avec toutes les saletés réactionnaires et anti-ouvrières qu'elle charrie, et s'opposer à Macron, ne pourra pas se faire en resservant ce vieux plat de l'union de la gauche qui a empoisonné les travailleurs. À tous les nostalgiques qui voudraient réécrire l'histoire, il faut rappeler qu'à chaque fois que les partis de gauche se sont unis, derrière Mitterrand, Jospin ou Hollande, ils ont gouverné pour le grand capital, contre les travailleurs. Le jeu politique de Macron consiste à instaurer un tête-à-tête avec le RN. Mais si le parti de Le Pen est en position d'apparaître aux yeux de beaucoup comme le parti de l'alternance, c'est aussi et surtout le fruit des trahisons et des reniements des partis de gauche chaque fois qu'ils se sont retrouvés au pouvoir. Et prenez cette histoire du vote utile. Cela fait des décennies que les partis de gauche, du PS et du PCF, ont brouillé les consciences avec ce fameux vote utile. Même si, au second tour de la présidentielle, deux politiciens bourgeois s'affrontaient, il fallait voter utile, c'est-à-dire voter pour le moins pire. Tous ceux qui ont vécu la présidentielle de 2002 se souviennent comment toute la gauche, et même une partie de l'extrême gauche, ont appelé, comme un seul homme, à voter Chirac contre Le Pen. En 2015, lors des régionales, toujours pour faire rempart au Front National, le PS et même le PC ont encore appelé les travailleurs à voter pour des candidats de droite. Cette pression électoraliste a contribué à effacer les réflexes et les raisonnements de classe, au point que beaucoup de travailleurs ne sont plus gênés aujourd'hui de voter pour une millionnaire de Saint-Cloud. Eh bien, il faut en revenir au langage de classe. Profiter de chaque combat électoral pour affirmer que quand on est ouvrier, on vote pour un programme ouvrier. Quand on appartient à la classe des exploités, on dénonce les exploiteurs et la classe capitaliste. La perspective ne peut pas être de reproduire sans cesse les mêmes erreurs. Mitterrand et Hollande n'ont pas été des erreurs de casting. Le problème n'est pas de trouver le bon candidat de gauche qui deviendrait un bon président pour les travailleurs. Cela n'a jamais existé, ni en France, ni en aucun autre pays. Dans cette société dominée par les lois du grand capital, tous ceux qui se hissent au pouvoir se condamnent à être pieds et poings liés à ses intérêts. La seule alternative est la suivante. Soit on accepte de gouverner dans le cadre de cet ordre bourgeois et on se soumet aux puissances de l'argent, soit on se prépare à les combattre avec la seule force capable de leur tenir tête, les travailleurs mobilisés et conscients de leurs intérêts. Ce qu'il faut reconstruire, c'est un parti ouvrier, capable de mettre en avant les exigences des travailleurs, des chômeurs, des retraités. Un parti qui se place du point de vue des exploités. Pas des intérêts de la France, pas des intérêts d'Airbus, de PSA ou d'Alstom, parce qu'il s'agit alors toujours des intérêts des grandes familles bourgeoises. Les partis ouvriers révolutionnaires qui nous ont précédés ont été capables de se battre pied à pied pour l'amélioration du sort des travailleurs dans le cadre du capitalisme, tout en militant dans la perspective de la révolution sociale. Et c'est armé de cette conscience révolutionnaire que les travailleurs ont mené leur meilleure lutte dans le passé. Et c'est ce que nous voulons reconstruire. Il faut un parti qui ne raconte pas d'histoire de sauveur suprême et qui dise clairement que le seul moyen de faire valoir les intérêts des travailleurs, ce sont leurs luttes collectives. Des luttes dont l'aboutissement ne peut être que le renversement de la bourgeoisie, l'abolition du salariat et la prise du pouvoir par les travailleurs. Au vu des résultats électoraux, et de ce que pèse le vote de classe des travailleurs dans les urnes, cela peut paraître utopique. Mais il n'y a pas à s'en démoraliser. Le clivage que l'on nous présente aujourd'hui entre Macron d'un côté et Le Pen de l'autre, qui opposerait les populistes aux progressistes, est un leurre. Il joue le même rôle qu'a longtemps tenu la division gauche-droite, c'est-à-dire masquer la véritable opposition dans la société, l'opposition de classe, l'opposition entre ceux qui travaillent pour gagner leur vie et ceux qui vivent du travail des autres, l'opposition entre le monde du travail et la bourgeoisie. Le camp des travailleurs n'est pas une abstraction. Avant d'être un choix politique conscient, c'est une réalité sociale. Tant qu'il y aura des travailleurs, il y aura des luttes. Et il y aura des femmes et des hommes, y compris des intellectuels, pour contester et combattre le capitalisme. Et les résultats électoraux, ils sont en grande partie déconnectés de cette réalité sociale. La colère qui s'est exprimée ces 6 derniers mois dans le mouvement des Gilets jaunes, avec ses revendications sur le pouvoir d'achat ou sur les inégalités sociales, ne s'est pas retrouvée dans les urnes. Réciproquement, les mouvements sociaux ne sont pas indexés sur les scores électoraux. Les mêmes qui s'abstiennent lors des élections ou votent pour le Rassemblement national peuvent très bien se transformer demain en militants dans les contestations sociales. Et c'est aussi ce que l'on a vu avec le mouvement des Gilets jaunes. Les contestations sociales, les grèves et les révolutions obéissent à des lois qui n'ont rien à voir avec le cirque électoral que l'on nous sert. Elles suivent d'autres logiques, celles de l'action des masses, de leur prise de conscience, celles de la confiance grandissante dans leurs forces collectives. Quand les travailleurs réalisent, dans les actions collectives, que bien des choses dépendent d'eux, ils peuvent se mettre à faire massivement de la politique dans le meilleur sens du terme, parce qu'ils sont en situation de faire leur politique, en partant d'eux-mêmes de leurs revendications essentielles, sans être empoisonnés par la démagogie politicienne des uns ou des autres. Oui, ce qui se passe dans la rue et dans les entreprises est bien plus déterminant pour les travailleurs que n'importe quel vote. Mais même dans leur lutte, les travailleurs ont besoin d'une politique. Ils doivent comprendre qui est leur ennemi, où porter leur coup, avec quelles revendications. Nombre de luttes ont avorté ou ont été dirigées vers des impasses parce qu'il manquait aux travailleurs la conscience d'avoir à renverser tout l'ordre bourgeois. Alors, il faut défendre une politique qui représente les intérêts immédiats et les perspectives des travailleurs dans toutes les circonstances. Dans les luttes elles-mêmes, dans le moindre débrayage, dans les grèves, dans les manifestations, mais aussi dans les combats politiques que sont les élections. Il faut la défendre avec la conviction que l'on peut être une minorité un jour et se retrouver le lendemain à plusieurs milliers dans les combats collectifs. Renforcer le courant qui place sa confiance dans la classe ouvrière est une tâche que nous poursuivrons envers et contre tout, car l'avenir de la société dépend de la révolution sociale. Le résultat des écologistes dans ces européennes témoigne d'une inquiétude légitime sur l'avenir de la planète. Mais il témoigne aussi d'un certain apolitisme. Europe Écologie Les Verts et Jadot a fait campagne en expliquant qu'il fallait rejeter l'idéologie et faire du concret. À l'entendre, il n'y aurait même pas besoin de se poser le problème de l'organisation capitaliste de la société, il suffirait seulement d'y injecter un peu plus de préoccupations écologiques. Sa politique épouse les idées dominantes, toutes les idées dominantes. L'idée qu'il faudrait agir pas à pas, parce qu'il n'y aurait pas d'alternative au capitalisme. L'idée que tout le monde aurait sa part de responsabilité et qu'il faudrait changer nos comportements, changer l'éducation, parce que l'on consommerait trop, parce que l'on consommerait mal, parce que l'on prendrait trop la voiture. Mais quand les consommateurs ont-ils demandé des produits bourrés de pesticides, de sucre ou de sel? Quand les automobilistes ont-ils milité pour que Peugeot se spécialise dans les moteurs diesel et que les constructeurs fraudent les contrôles anti-pollution? Et celui qui habite à des dizaines de kilomètres de son travail à cause des prix de l'immobilier, de quoi est-il responsable? Que l'on prenne le bus, la voiture, le train, l'avion, chacun peut désormais calculer son bilan carbone. On peut même faire le bilan carbone de ce qu'on a dans son assiette maintenant. Alors oui, on peut passer son temps à se culpabiliser ou à se rassurer et se donner bonne conscience parce qu'on a pris l'habitude de faire le tri sélectif ou parce que l'on est devenu végétarien. Mais à côté de cela, les grands groupes industriels et commerciaux qui ne veulent plus de stock font rouler des norias de camions sur les routes. Le fret ferroviaire recule. Les villes manquent d'argent pour développer et entretenir leur réseau de transport collectif. Des immeubles de bureaux sont laissés vacants, des usines laissées en friche. Sans parler des catastrophes écologiques, il y a la destruction de la planète à petit feu, la déforestation, la pollution des nappes phréatiques, des régions entières, des pays pauvres, transformés en dépotoirs dangereux. Alors, si l'heure de la mobilisation écologique a sonné, il faut remettre en cause toute l'organisation sociale. Ce sont les capitalistes qui tiennent les manettes de l'économie et qui décident de l'organisation de la production, de l'énergie, des transports. Avec les États à leur service, ils façonnent nos modes de consommation, de déplacement. Et le propre de leur système, c'est d'être irresponsable, c'est de ne pas avoir de morale. Pour qu'ils acceptent de se préoccuper de l'écologie, il faut que cela leur rapporte. Certains ont trouvé dans l'écologie l'occasion de développer de nouveaux marchés. Et pour tous, elle est devenue un levier publicitaire magique. Mais leurs convictions écologiques s'arrêtent à leur coffre-fort. Dernièrement, les producteurs de diamants qui pillent les richesses de l'Afrique du Sud ou du Botswana ont fait savoir qu'ils recyclaient 83% de leur eau. Et il faudrait les applaudir pour ça. La logique même du système pousse à vouloir toujours plus de productivité, plus de rentabilité. Sous peine de déplaire aux investisseurs, il faut que les dividendes augmentent, que les cours boursiers progressent. Ce n'est même pas une question de morale et de choix. C'est la logique mécanique d'un système drogué au profit. Quant aux lois du marché, elles conduisent à un immense gâchis ou à la pénurie. Parce qu'il faut investir, acheter des machines, des matières premières et produire sans même savoir ce qui sera vendu, à l'aveuglette, sans plan d'ensemble, au hasard des multiples initiatives individuelles, au hasard de la concurrence. Ce n'est qu'une fois les produits mis sur le marché que l'on découvre s'il y a des acheteurs correspondants ou s'il faut tout mettre à la benne. Les produits et les machines qui ont servi à la production. Et on va nous faire croire que l'économie capitaliste est compatible avec l'écologie. Il n'y aura pas de société respectueuse de l'environnement et des hommes si on ne renverse pas le capitalisme. À la place de ce système, qui est le règne de l'intérêt privé, il faut imposer la gestion collective des grands moyens de production et le règne de l'intérêt général. À la place du marché et de la concurrence, il faut partir des besoins de toute la population et il faut planifier, mobiliser et répartir les ressources, les moyens de production, les travailleurs pour y répondre. Il faut anticiper, produire ni trop ni trop peu, produire pour répondre aux besoins de tous. Et cela n'a rien à voir avec le productivisme. Ce ne sont pas les travailleurs qui sont accros à la croissance. Ils veulent juste vivre dignement. Si les salariés avaient leur mot à dire sur ce qu'ils produisaient et sur la façon de s'y prendre, on en aurait fini depuis longtemps avec l'obsolescence programmée, avec la production d'engins de mort et la production de ces produits de luxe. Les ordinateurs programmés dans les centres bancaires pour spéculer au millionième de seconde, serviraient à surveiller les végétations, à irriguer au plus juste, à prévoir les récoltes. Pour ne pas gâcher les immenses capacités productives que l'humanité s'est données, il faut mettre fin à l'obstacle que constitue la propriété privée sur celle-ci. Cela nécessite d'exproprier la bourgeoisie des usines, des banques, des transports et des grandes chaînes de distribution, des multinationales du numérique qui empêchent toute organisation rationnelle de l'économie. Mettre en commun ces moyens de production, c'est le sens du mot « communisme ». Ce mot a été dénaturé, mais il est riche de signification. Une infime minorité décide seule de choix engageant toute la société parce qu'elle concentre les capitaux entre ses mains. La véritable démocratie et le pouvoir du peuple, mot que tout le monde a à la bouche, n'auront de sens qu'une fois cette minorité détrônée, quand toute la population pourra donner son avis et surtout participer aux décisions sur la façon de gérer collectivement les grandes entreprises qui dominent l'économie. L'actualité s'est fait l'écho du procès des Balkany et de leurs frasques avec leurs moulins à Giverny, leurs villas aux Antilles et leurs riades à Marrakech. On apprend que Madame Balkany allait faire ses courses avec des billets de 500 euros, que monsieur en avait plein les poches de son peignoir. Mais c'est l'arbre qui cache la forêt. La grande bourgeoisie, c'est autre chose. Ce sont ces grandes familles qui ont décidé en quelques heures de mettre des centaines de millions pour la restauration de Notre-Dame de Paris. C'est la famille Arnault qui a vu son patrimoine augmenter de 10 milliards entre mars et avril dernier. Cette famille qui se retrouve aujourd'hui à la tête d'une fortune de plus de 70 milliards. 70 milliards. C'est le budget de l'éducation nationale, avec ses 12 millions d'élèves et son million de salariés. C'est 1000 fois moins que ce que l'État demandait pour reprendre la Syrie d'Ascoval. C'est de quoi construire 700 000 logements, plus de 200 hôpitaux, alors que le gouvernement ferme des maternités et fabrique des déserts médicaux. Les centaines de milliards de capitaux qui se concentrent dans les mains d'une toute petite minorité sont intouchables, inutilisables pour la collectivité. Au nom de la propriété privée, il est interdit d'en contrôler l'usage. Et aujourd'hui, l'État en est à batailler avec les multinationales de la pharmacie qui ont ralenti, voire stoppé la production de certains médicaments, créant rupture d'approvisionnement et risques graves pour les malades. Et c'est au choix de cette grande bourgeoisie que toute la société est soumise. Et en plus de nous mener à la catastrophe sociale et écologique, elle nous conduit à la catastrophe économique. Le gouvernement Macron a beau enjoliver les choses en expliquant qu'on va vers le plein emploi parce que les petits boulots de rien du tout se sont multipliés. L'actualité avec l'ex-Whirlpool à Amiens, avec Ascoval, avec General Electric qui a décidé de supprimer 1000 emplois à Belfort, eh bien cette actualité, elle montre qu'investir dans la production n'intéresse que très peu les capitalistes. À moins de profits rapides et assurés, ils ne veulent pas investir. Ce ne sont pas des investisseurs, ce sont des aventuriers de la finance, appâtés par les millions d'aides des pouvoirs publics. Et pourquoi investiraient-ils dans la production quand les marchés sont saturés et la guerre commerciale féroce? Investir dans la finance, spéculer, y compris au jour le jour, est bien plus lucratif. Autrement dit, plus nous travaillons, plus nous faisons d'efforts et de sacrifices pour les profits de quelques-uns, plus la spéculation augmente, plus nous risquons le krach généralisé. Y a-t-il plus fou que cette économie? Le capitalisme est une société condamnée à aller de crise en crise et de guerre en guerre. Eh bien, il faut des femmes et des hommes, des jeunes, conscients du fait qu'elle ne peut pas être l'avenir de la société et qu'il faut s'employer à la renverser. Crise économique, chômage de masse, guerre, terrorisme, crise écologique, migrants refoulés par les pays riches. Les dirigeants actuels, qu'ils soient à la tête des multinationales, des grandes banques ou des États, sont incapables d'apporter quelque solution que ce soit. Pire, ils poussent l'humanité entière vers le précipice. Et la classe ouvrière est la seule classe qui peut s'y opposer. Cela peut paraître utopique vu la combativité actuelle du monde ouvrier. Il est vrai que l'on a vu beaucoup de catégories sociales se battre ces dernières années. Il y a aussi eu ce mouvement des Gilets jaunes. Mais il n'y a pas eu dans les entreprises de grandes mobilisations. Mais la confiance que nous plaçons dans la classe ouvrière ne dépend pas de sa combativité à tel ou tel moment, ni de ce qu'elle peut voter à telle ou telle élection. Les travailleurs ne sont pas dotés d'un sens révolutionnaire inné. Quand la confiance dans leur force collective n'est pas là, ils acceptent leur sort, ils s'adaptent à la société, en épousent les valeurs, l'individualisme, la réussite personnelle, le nationalisme et ses préjugés. Notre confiance dans la classe ouvrière découle de l'analyse marxiste de la société. L'un des apports fondamentaux de Marx et d'Engels a été de montrer que la société capitaliste portait en son sein le socialisme. Le capitalisme a rassemblé les moyens de production. Il les a concentrés en faisant travailler ensemble des milliers, des centaines de milliers de personnes. Au sein des multinationales, il a de fait socialisé et collectivisé le travail et la production. Des dizaines, des centaines de milliers de salariés sont intégrés dans le même processus de production, mais ils travaillent pour le compte d'une ou de quelques familles bourgeoises. Eh bien, pour réaliser le socialisme, il ne reste qu'à supprimer la propriété privée des capitaux, il ne reste qu'à exproprier la grande bourgeoisie des moyens de production qui appartiennent à toute la société. C'est l'intérêt profond de la classe ouvrière qui, comme disait Marx, n'a rien d'autre à perdre que ses chaînes et s'est inscrit dans la logique de la lutte de classe qui ne se terminera qu'avec la mort du capitalisme. La classe ouvrière a déjà mené de grandes luttes, des grèves générales, des insurrections, des révolutions. Elle a fait la preuve qu'elle était capable de prendre le pouvoir en Russie en 1917 et d'ébranler le monde entier. Mais même sans parler de ces périodes extraordinaires, quand la classe ouvrière portait haut ses perspectives révolutionnaires, elle a fait progresser toutes les idées d'émancipation, l'égalité entre les femmes et les hommes, l'indépendance des pays colonisés, l'antiracisme, la lutte contre l'apartheid, la solidarité avec le combat des Noirs américains. Alors, les hauts et les bas dans la combativité et la conscience des travailleurs ne nous feront pas changer d'idée et de programme. Construire une organisation sociale où l'exploitation de l'homme par l'homme disparaîtrait, où la pauvreté serait bannie et où les relations humaines ne seront pas pourries par l'argent, est possible depuis longtemps. C'est ce drapeau qu'il faut maintenir. Il en va de l'avenir de la société, de l'humanité et de la planète. Et pour finir, je voudrais m'adresser aux jeunes qui nous écoutent. Vous voulez être responsable pour l'humanité et la planète ? Vous rejetez cette barbarie qui consiste à traiter les migrants comme des pestiférés? Vous ne supportez plus cette société où tout n'est que concurrence, sélection, lutte individuelle? Vous cherchez tous les moyens possibles d'échapper à l'exploitation? Vous aspirez à vivre autrement? Eh bien, il faut changer la société. Il n'y a pas d'issue individuel. Il faut agir collectivement, s'engager politiquement pour renverser le capitalisme. C'est un combat difficile, un combat sans garantie de succès, un combat qui commence dans les consciences parce qu'il faut remettre en cause l'idéologie dominante, cette idée que le capitalisme serait intangible, qu'il correspondrait à la nature humaine. Alors, ne cédez pas au vent dominant, ne cédez pas au conformisme et à l'individualisme. Attelez-vous à comprendre le monde, les rapports de classe qui le régissent, parce que c'est de là, c'est des exploités que viendront les grandes révoltes. C'est leur levée en masse qui donnera la possibilité de renverser le vieux monde et tout son fatras réactionnaire. Liez votre sort à celui de la classe ouvrière qui est le seul levier révolutionnaire pour refonder une toute autre société. Et que vous soyez jeune ou moins jeune, rejoignez-nous dans le combat révolutionnaire. Nous défendons ces idées depuis des décennies dans les entreprises et les quartiers populaires. Nous avons démontré que nous ne sommes pas des girouettes qui changent de politique en fonction de l'air du temps, des modes intellectuels et politiques. Nous serons là demain pour que les générations futures puissent écrire une nouvelle page de l'histoire de l'humanité. C'est un combat ambitieux et difficile, mais c'est le seul combat qui vaille, le seul enthousiasmant.